ça ira. Les aristocrates, on les pendra.
Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption.
Est-ce que vous mangez les riches ?
Alors, il y a ici de l'extrême gauche, des mecs des banlieues, des syndiqués, des papis, même des touristes pris dans le truc.
Vous êtes ici chez les salopards, hein ? C'est admis.
On va rester groupés, ça va bien se passer.
La chronique de Maëlle sur Divergence. Bonjour à toutes et à tous. Un drame, que dis-je, une tragédie s'est produite ce vendredi 20 mars 2026. Chuck Norris est mort. Un cow-boy viril mythique de la pop culture, comme on n'en fait plus, un personnage tellement caricatural qu'il en est devenu un mème internet inépuisable. Ce mec était une putain de légende. Chuck Norris pouvait gagner un match nul, Chuck Norris ne clignait pas des yeux puisque ce sont ses paupières qui faisaient des pompes, et quand Chuck Norris était flashé par un radar, il gagnait des points sur son permis. Bref, une légende humaine, le visage de mes dimanches après-midi chez ma grand-mère où entre le poulet frites et la balade en forêt, on digérait devant Walker Texas Ranger et son générique mythique. Je sais pas ce qui se passe dans le milieu de la haute en ce moment, mais c'est l'hécatombe. Bruno Salomon, Eric Dane, Isabelle Mergault, James Van Der Beek, Catherine O'Hara, toutes les icônes de nos enfances et de celles de nos parents passent l'arme à gauche les uns après les autres. Même Lionel Jospin, qui n'est ma foi pas une icône de mon enfance, mais après chacun ses idoles, et ben lui aussi nous a quittés ce lundi 23 mars. Et malgré tout ça, on a toujours l'autre couillon là qui veut pas nous lâcher la grappe. Vous pouvez insérer le nom que vous voulez derrière l'autre couillon. Je sais que vous avez tous vu un visage s'afficher dans votre tête. C'est pas bien, on souhaite pas la mort des gens, sauf si c'est... En parlant de personnes qui devraient passer une tête dans l'au-delà, il y a des rumeurs qui prétendent que Benjamin Netanyahou, le Sher Khan du Moyen-Orient, avec le charisme en moins, serait mort depuis une dizaine de jours. Alors vous me demanderez d'où ça sort cette histoire ? Eh ben de tout un tas d'indices concordants. Ça commence tout début mars, lorsque des médias iraniens et chinois commencent à spéculer sur la potentielle mort du génocidaire israélien qui aurait été tué lors d'une frappe de missile aérienne le 8 mars. Journée internationale des droits des femmes, est-ce une coïncidence ? Oui. Bon, jusque-là, on est dans un contexte de guerre illicite entre pas mal de pays qui n'ont pas la démocratie et les libertés fondamentales comme mantra, donc logique que les uns et les autres cherchent à déstabiliser les pays ennemis. L'Iran a vu Khamenei père calancher sous les frappes israéliennes il y a moins d'un mois, il y a moyen que Khamenei fils ait aussi été de la partie par la même occasion, et l'Iran cherche grosso modo à se venger en ciblant Ben. Les rumeurs lancées, Benjamin publie une vidéo sur les réseaux sociaux où on le voit lui semblant s'adresser à des journalistes triés sur le volet dans une conférence de presse pour montrer qu'il est bien vivant. Le souci, c'est que la vidéo est un petit peu bizarre, il s'exprime bizarrement et par moments, il a 6 doigts sur sa main gauche. Et c'est ok, hein, ma grand-mère paternelle, elle n'a que 4 doigts sur une main, ça ne l'empêche pas d'être bien vivante et pas générée par IA. Enfin, en tout cas, je crois. C'est peut-être un problème de compression de vidéo, mais en tout cas, ça a suffi à alimenter les rumeurs. Bon nombre d'internautes ont analysé la vidéo seconde par seconde pour démontrer qu'elle était générée par intelligence artificielle et ne se sont pas retenus de le relayer sur Twitter. Pour contrer une nouvelle fois la rumeur, Netanyahou publie une vidéo prise dans un café de Jérusalem où on le voit fièrement commander un latte pendant qu'au même moment, ses soldats épurent un peuple. C'est le petit rituel du lundi matin en Israël, latte au lait d'amande et génocide, on change pas une équipe qui gagne. On juge pas, on a dit, puisqu'à Divergence, le rituel du lundi matin, c'est café club toutes les 6 minutes et Bruno, notre directeur d'antenne, qui nous abreuve des nouvelles de son week-end, qu'il a passé à débroussailler son jardin et terroriser ses voisins, chacun ses petites traditions. Bref, sur cette seconde vidéo, eh ben, y a encore des trucs qui vont pas, l'alliance de Ben disparaît un plan sur deux, et le fond du café change de couleur à un moment random. Twitter s'affole, c'est encore une vidéo générée par IA, Ben est mort, c'est sûr et certain. D'autant plus qu'il subsiste un dernier faisceau de concordance, le fils de Benjamin Netanyahou, hier, n'a rien posté sur Twitter entre le 8 mars et le 15 mars. Ça pourrait paraître hyper anodin, sauf qu'en fait, hier Netanyahou est un tweetos compulsif qui poste de la propagande israélienne matin, midi et soir, post-caca méridienne incluse, sur Twitter. Et donc une pareille absence, ça se remarque très vite, et ce qui tend à relier cette absence inhabituelle à la mort de Bibi, c'est Shiva. Shiva, c'est la période de deuil juif, confession religieuse de la famille Netanyahou, et Shiva, ça dure 7 jours, soit pile poil la durée d'absence de tweet de hier. Bien évidemment que c'est une théorie complotiste. Je pense que si Ben était mort, l'État d'Israël ne se serait pas privé de l'ériger en martyr avant même que son corps n'ait eu le temps de refroidir. Mais c'est beau de rêver. Il y en a qui vont me dire que c'est pas bien de souhaiter la mort des gens, mais c'est les mêmes qui ne trouvent rien à redire quand le potentiel défunt lui-même écrit noir sur blanc qu'il veut terminer le boulot en Palestine. Terminer le boulot, façon diplomatique de dire qu'il veut raser la Palestine en massacrant hommes, femmes et enfants pour que son BFF Trump puisse y faire construire un camping 5 étoiles avant la fin de son mandat. C'est tellement agréable de faire trempette dans la mer Rouge. Sauf que la mer Rouge, elle touche pas les côtes palestiniennes. Alors si t'as la peau un poil rosée en sortant de ta trempette dans l'eau, c'est que le sang des milliers de morts palestiniens s'y est malencontreusement mélangé, ou que l'autobronzant était pas complètement sec quand t'es parti te baigner. Alors fais gaffe où tu poses ton cul, mon Donald.
Comme il est mignon, comment vous allez l'appeler ce petit canard?
Mais revenons en France. Niveau connasse, on a notre lot bien à nous. Est-ce que vous connaissez Hélène Mercier-Arnaud? C'est une pianiste franco-canadienne somme toute brillante, chevalière des arts et des lettres, qui a joué avec les plus grands orchestres philharmoniques du monde, mais qui a eu la malencontre et saugrenue idée d'épouser Bernard Arnault en 1991. Mais bon, on peut lui pardonner, tout le monde fait des erreurs, et moi la première, j'ai eu la merveilleuse idée d'acheter un dossard pour un semi-marathon complètement arraché le soir du nouvel an, alors que je pouvais pas courir 500 mètres sans faire une tachycardie, et maintenant faut assumer les conneries. Donc voilà, erreur de parcours, c'est pas grave Hélène, encaisse le chèque quand Chouchou d'Amour passe l'arme à gauche étouffée dans son caviar, et vite à vie. Bah oui, mais non, parce qu'en fait Hélène, elle est aussi méprisante que son abruti de mari. La semaine dernière, le canard enchaîné a exhumé un extrait coupé au montage d'une interview de la damoiselle au micro de RTL. On lui demande comment elle vit le fait de voir des gens à la rue alors qu'elle, elle est au max du confort de vie. On t'écoute Hélène.
Oui, parce que ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer. Bon, les SDF, j'y pense pas tous les jours. Hein.
Ouais, ça part assez mal, mais on va pas la juger tout de suite non plus. Laissons-la développer.
Dans les premières fois que j'ai vu, on appelait ça des clochards à l'époque. Les premières fois que j'ai vu des clochards, c'était quand je suis arrivée à Paris, parce qu'il n'y en avait pas à Montréal. Alors peut-être qu'ils faisaient, c'était à l'époque, il faisait trop froid. C'est aussi, j'ai l'impression, un choix de vie. Je vis pas avec de la culpabilité tous les jours à partir du moment où je pourrais rien faire. C'est la société, c'est le monde dans lequel on vit partout en fait. Et vous avez aussi des pays qui sont... Enfin, j'ai été en Afrique quand j'ai visité la RDC, et plus quand même beaucoup plus marquant que ce que je peux voir en France quand même. Bon, la vie est tragique, mais elle peut être gaie aussi. Et l'accès à l'amour, tout le monde l'a. L'accès à l'amour, tout le monde l'a. C'est tout ce qui compte, en fait, l'amour.
Eh ben c'est top, ta vision du monde, ma chère Hélène. Merci beaucoup. Je pense que la France avait vraiment besoin de savoir ce que les milliardaires qui nous pissent à l'arrêt au quotidien pensent des sans-domicile fixe. Et encore, j'ai dû couper, hein, mais sachez qu'elle déballe sa charmante prose pendant 4 longues minutes. Mais c'est peut-être Hélène qui a raison, après tout. Qu'est-ce qui les empêche d'avoir un domicile aux clochards, comme elle les appelle? Si ce n'est la pauvreté, le manque de logement, l'abandon complet de l'État, la saturation des dispositifs d'aide, le chômage et la détresse psychologique. Et bah rien, voilà, c'est une question de volonté. Et qui nous dit que, comme les hadiths de Notre-Dame, c'est pas leur choix personnel finalement. Non, parce qu'Hélène, elle pourrait choisir aussi de vivre dans la rue, de crever la dalle et de risquer de mourir ou d'être violée 37 fois par jour. Mais elle le fait pas, c'est tout, c'est un choix.
Je te dis, ça fait clochard.
Non mais franchement...
Non mais ça fait clochard.
Mais arrête
Ça fait clochard à force.
Et puis il y a que l'amour qui compte. Voilà, CQFD les pauvres, démerdez-vous avec ça. Vous savez, il y a pas mal de chercheurs qui disent qu'on vit une époque semblable à celle de 1930, notamment à cause du climat politique. Mais à mon humble avis, on vit plutôt un retour à 1789. Les nobles qui disent aux gueux d'écouter du Schubert, c'est à peu près la chansonnette de Marie-Antoinette avec sa brioche.
Marie-Antoinette, elle est drôlement gourmande, monsieur Peabody.
Oui, en effet. C'était une femme dotée d'un appétit hors du commun pour tout ce qui était superficiel.
Bien sûr, une fois que ça a fuité, elle a dit « Désolée la team, je me suis emballée, j'ai pas d'avis politique », mais le mal était fait. Si on avait encore un doute que les milliardaires vivent sur notre planète, et ben là, ça me paraît quand même clair. La Hélène nous dit qu'elle peut rien y faire, mais c'est quand même un sacré foutage de gueule. S'il y a bien quelqu'un qui peut aider les sans-abri, c'est elle et son mec. Pour rappel, Bernard Arnault pèse à lui tout seul 160 milliards d'euros. Ça, c'est 6,8 millions d'années de rémunération au SMIC. Mais nul doute qu'il a gagné tout ça à la sueur de son front et que n'importe qui pourrait faire pareil avec un petit peu de bonne volonté et une espérance de vie illimitée. C'est quand même pas de sa faute si vous vous complaisez dans votre pauvreté. Wake up, en fait. Ah là là, on l'entend pas souvent, Madame Arnault, elle est pas tellement branchée interview et exposition médiatique, et franchement, quand on voit ce qu'elle en fait, eh ben on se dit qu'elle ferait effectivement mieux de rester sur son yacht à écouter la dernière réinterprétation de la danse macabre de Saint-Saëns. En parlant de déconnexion, je sais pas si vous avez remarqué, mais on trouve pas d'essence à moindre 2€ le litre en ce moment. Alors pour ceux qui m'écoutent et qui n'ont jamais fait un plein de leur vie, du genre au hasard, Hélène par exemple, je vais illustrer. Je possède une splendide 207 avec un réservoir de 50 litres que je remplis au sans-plomb 95. À 2€ le litre, j'en ai pour 100 balles. Est-ce que vous savez combien de paquets de pâtes, de 1 kg de coquillettes je pourrais m'acheter avec 100 balles? Eh bah 100. soit suffisamment de pâtes pour tenir toute l'année. Alors qu'Hélène, si elle éternue 3 fois d'affilée, elle a déjà de quoi s'acheter 10 000 paquets de pâtes. Mais genre vraiment littéralement, parce que son mec gagne 10 000 euros par seconde. Et ce sont ces mêmes types qui s'en font 10 000 euros par seconde qui profitent du conflit au Moyen-Orient pour siphonner le porte-monnaie des pauvres. Croyez pas que le prix de l'essence augmente parce que les réserves se trouvent sur des territoires de guerre avec une grande incertitude pour y accéder, non non. Le prix il augmente parce que des types comme Bernard Arnault, Patrick Pouyanné ou mon chouchou Vincent Bolloré jouent sur la peur des gens pour augmenter les prix. Sachez que le litre que vous achetez 2 euros, il ne coûte que 50 centimes à total en ce moment. Alors niveau enculade, on n'est pas trop mal. 2 euros, non mais 2 euros, fut un temps où on faisait des barbecues sur les ronds-points pour protester contre le litre à 1,50€. C'était la belle époque, celle où Macron avait eu peur pour sa vie en voyant les pauvres désespérés crier « Macron explosion ». La mode vestimentaire mise de côté, ça me donnerait presque envie de remettre 2017 à la mode, voire carrément 1789. Allez, soyez curieux, restez révoltés, et sur ces belles paroles, on va se quitter en écoutant la poignante interprétation de la 21e danse hongroise de Brahms par Hélène Arnault. Non, je déconne, Hélène, je t'emmerde, toi et ta vision claquée du monde. Bisous!
Les aristocrates, on les prendra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donne des fêtes et qu'ils entretiennent des cadins. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases. On ne veut plus mourir de faim. Ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pondra.